D'abord, je voudrais rebondir sur ce qui nous a été donné dans la parole de Dieu, mais aussi rebondir sur ce qui a été dit dimanche. Vous vous souvenez, il y avait un temps où on parlait de la louange, l'adoration, et on fait tous un constat dans nos vies, c'est qu'il est difficile parfois pour nous d'entrer dans la louange et l'adoration. Vous avez déjà remarqué ça ? On arrive le dimanche matin, et en gros, les gens qui sont là, et le pasteur en général, parce que j'espère qu'il est un peu motivé, vous demande d'entrer dans la louange et l'adoration. Alors, on se retrouve, parce que moi, des fois, je me trouve ici, vous voulez... Bon, je me mets à la place aussi des gens dans la louange. Il y a, pour certains, c'est difficile, on sent que c'est dur, ils attaquent dans le dur, comme on dit. C'est très difficile pour eux d'entrer dans la louange. Et puis, pour d'autres, ça part comme ça. En réalité, enfin, c'est quelque chose, ça. Tout ce que je vais vous dire ce matin, d'abord, j'espère que ce sera pédagogique. Je vais essayer d'être le maximum visuel. J'ai pris vraiment le temps pendant 2 jours de vous préparer quelque chose qui soit visuel pour que vous compreniez bien. Et aussi, tout ce que je vais vous dire, c'est tiré de la parole de Dieu. Enfin, ça, j'espère que, que vous le comprendrez bien. Mais surtout, c'est aussi tiré de mon expérience personnelle. Parce que je pense que parfois... On vit des choses qui nous permettent aussi d'amener les autres dans une... pour aider les autres à entrer davantage dans cette vie avec le Seigneur. Et je vais vous parler de l'ancienne alliance, mais aussi, surtout, de la croix. Vous savez, il y a une religion qui sera une religion mondiale, qui ressemblera à ce que je vais vous présenter, mais qui aura omis quelque chose d'important. C'est ça, le parvis. Tu peux avancer, Nat, s'il te plaît. Hébreux 9, 2 à 4, regardez ce qu'il est écrit. Un tabernacle fut en effet construit, c'est Betsalel qui l'a construit, avec d'autres, mais c'était Betsalel le chef de chantier, si je puis dire. Et c'est vous et moi, on s'appelle Betsalel. Donc normalement, on est amené à construire un tabernacle qui n'est pas physique, spirituel. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Waouh ! Rien que le nom, là, on se dit, c'est quoi ce truc-là ? Et pourtant, vous allez voir, renfermant l'autel d'or des parfums, l'arche de l'Alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, les tables de l'Alliance, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Purée, c'est compliqué. Quand vous lisez ça, je parie que vous n'avez rien compris. Non ? Allez, on va faire un peu de visuel. Continue, s'il te plaît, Nathan. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin vers le lieu très saint, en gros, là... L'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de reprendre un peu ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Il y avait un tabernacle qui avait été construit avec le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu où se trouvait Dieu, l'Éternel, YHVH, je sais pas, le nom imprononçable. L'Éternel était là et il était présent. Et il voulait faire comprendre aux hommes que ce qu'il voulait, lui, c'est amener l'homme dans sa présence. Waouh ! Vous imaginez, nous, qui nous sommes, ce que nous sommes pour pouvoir prétendre à la présence de Dieu. Et il montrait par là, le Saint-Esprit montre par là que le chemin n'était pas encore ouvert alors qu'il y avait ce tabernacle qui était construit. En gros, il y avait un homme qui, une fois par an, pouvait y rentrer, un souverain sacrificateur. Le reste du peuple restait à l'extérieur, vous comprenez ? Mais là, il dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui nous est permis de vivre et d'entrer. Et en gros, nous sommes tous un peuple, un royaume, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Voilà ce que nous dit le premier chapitre de l'Apocalypse, qui nous dit que nous avons tous accès à la présence de Dieu. Normalement, vous devriez vous réjouir quand je vous dis ça, mais bon. Ensuite, la suivante. Mais Christ a traversé le tabernacle En fait, Christ, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout traversé lui-même. Il est entré une fois pour toutes avec son propre sang. Vous allez voir, le rôle du sang dans cette alliance était important. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ça veut dire que Jésus a ouvert un chemin pour tous les souverains sacrificateurs afin que nous puissions être dans la présence de Dieu. Toi, moi, tous autant que nous sommes, peu importe ta vie passée, peu importe ce que tu as fait, ce que tu as vécu, mais tous autant que nous sommes, nous avons un chemin qui nous est ouvert pour entrer, pour aller dans la présence de Dieu. Et normalement, vous devriez... Vous n'auriez même plus froid, vous devriez avoir chaud là. Le suivant, maintenant je pense que... Vas-y Nathan, le tabernacle, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que normalement si j'avais ma télécommande, je pourrais vous le montrer avec le laser, c'est la faute de ta femme, c'est ça. C'est comme dans le jardin d'Éden, quoi. C'est la femme que tu as mis à côté de moi Seigneur. Petit malin, va. Tout son père. Ah, t'as un truc, super. C'est le verre, ouais. Allez, regardez. Là, ici, vous avez le tabernacle. Alors, vas-y, avance, parce que c'est bien défini. Le parvis, vous allez voir, on va surtout parler de cela ce matin. Derrière, à côté, le lieu saint, où il y avait le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Ensuite, derrière, il y avait le lieu très saint, où il y avait l'arche de l'Alliance et où Dieu se tenait. Vas-y, Nathan, continue. Le parvis... Si vous regardez cette image, je vous ai parlé que Jésus a traversé le tabernacle. Jésus, il est rentré par là, si je puis dire, dans le tabernacle du ciel. Il est rentré par le parvis. Il a fait tout cela. Il a atteint le Saint des Saints. Avec son propre sang, il y est entré. Vous allez voir qu'à l'époque, c'était quelque chose. Et lorsque je vous disais tout à l'heure, la religion universelle qu'il aura dans la fin des temps, vous savez qu'il va y avoir une religion universelle. Tout le monde sera d'accord pour dire « Aujourd'hui, on va adorer Dieu. » Ils appelleront Dieu, Dieu. D'accord ? Et en fait, tous diront « Nous pouvons atteindre le Saint des Saints par en allant directement dans un lieu saint. » Et vous allez voir aujourd'hui, le développement de soi est répandu. De plus en plus de gens, il faut s'élever, il y a des stages, vous savez, pour augmenter nos capacités, etc., etc. Et toutes les religions diront ça. Cette religion-là dira, nous pouvons vivre la présence de Dieu, mais ils omettront le parvis. Vous savez pourquoi le parvis sera négligé ? Parce que le parvis parle de Jésus, il parle de la croix. Il parle de ce que Jésus a fait sur la croix. Et ça va être quelque chose contre qui nous allons nous battre, vraiment combattre, contre les pensées universelles qui diront « Nous n'avons plus besoin de la croix pour entrer. Nous n'avons plus besoin de la croix pour croire en Dieu. Nous n'avons plus besoin de la croix pour entrer dans la présence de Dieu. » Et notre grand problème à nous, ici, lorsqu'on adore le Seigneur le dimanche matin, vous savez ce qui se passe les trois quarts du temps ? C'est qu'on n'a pas pris le temps du parvis. Et le temps du parvis, c'est un style de la vie de tous les jours. Le problème, c'est que nous passons très peu de temps dans le parvis avec Dieu le reste de la semaine à régler des problèmes de fond dans nos vies. Et que se passe-t-il ? On arrive le dimanche matin. Ce matin, ça a duré une trentaine de minutes, la louange. On arrive le dimanche matin. Et on fait ce chemin vers dans le parvis. Alors des fois, ça prend du temps, vous allez voir. Ça prend du temps d'être dans le parvis. Et on se dit, ah zut, j'aurais bien voulu que la louange commence, continue maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait ce chemin-là. Et une fois que ça va un peu mieux, on se dit, ah zut, c'est déjà terminé la louange. En fait, la situation dans le parvis n'est pas quelque chose que nous vivons le dimanche matin. Parce que le tabernacle, en réalité, c'est toi. Et tu dois régler ces problèmes-là tous les jours de ta vie. Tu peux avancer, Nathan, s'il te plaît ? Le tabernacle, il avait trois sources de lumière différentes. La première, vas-y, Nathan. Dans le parvis, la lumière, il y avait une lumière naturelle, c'était à l'extérieur. Quand il pleuvait, les gens, dans le désert, il ne pleuvait pas beaucoup, vous allez me dire. Mais quand il pleuvait, il pleuvait. Quand le soleil cognait, quand il faisait 40 degrés, les gens le sentaient passer. Autrement dit, dans le parvis, qui représente un peu nos vies, d'accord ? Nous sommes beaucoup influencés par ce qui se passe de l'extérieur. Avez-vous déjà remarqué le dimanche matin ? Vous arrivez, vous avez été contrarié par quelque chose dans la semaine. Oui, il s'est passé quelque chose dans la semaine. Vous n'avez pas réglé le problème et vous n'arrivez pas à rentrer dans la présence de Dieu. C'est pas vrai ? Parce que le monde extérieur influence votre chemin. Et il vous conditionne. C'est pas vrai ? La deuxième lumière, c'était le chandelier. Donc le lieu saint, c'était un lieu qui était complètement fermé. Il y avait un voile, etc. Pas tout de suite, Nat. T'as envie de manger, toi, non ? Le chandelier, c'était la parole de Dieu. C'est Christ, lumière du monde. On l'a chanté. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Christ capable d'éclairer un cœur. Une vie. Jésus qui éclaire nos cœurs, qui éclaire nos vies. Jésus qui se révèle à nous par sa parole. Et la parole vivante, pas la parole écrite, la parole vivante, la parole de Dieu inspirée et révélée par l'Esprit du Seigneur. Christ, c'est lui qui éclaire la vie des gens. Et puis plus loin, il n'y avait aucune lumière dans le lieu très saint. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est uniquement la gloire de Dieu qui t'éclaire. Et je peux vous dire que moi, en tant qu'adorateur, parce que j'essaye de m'appeler comme ça, les trois quarts du temps, je vis le temps de louange, 50% ici, je vis 45% ici, et je vis 5% là. Alors, que c'est en totale contradiction à ce que nous voulons dire avant. Christ a traversé le tabernacle, il a obtenu pour moi une rédemption éternelle et j'ai un libre accès dans la présence de Dieu. Fais un peu le point dans ta propre vie et vois. Et je peux vous dire que quand on vit ça, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, je l'ai vécu, moi, chez moi, à plusieurs reprises. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui vous transforme, qui vous change. Parce que là où vous êtes transformé, c'est là. Là, vous êtes préparé au changement. Là, vous êtes transformé. Parce que le lieu très saint, le saint des saints, c'est le lieu de l'achèvement. C'est le lieu du perfectionnement. C'est le lieu où Dieu peut vraiment agir puissamment dans ta vie. Pourquoi Moïse était-il transfiguré lorsqu'il est descendu dans la montagne ? Parce que Moïse était là. Et pourquoi il est écrit dans l'Épître aux Corinthiens que nous, qui avons le visage découvert, donc qui laissons la gloire de Dieu nous toucher, nous sommes transfigurés par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu veut nous changer. Dieu veut nous amener plus près de sa présence parce qu'il sait que dans nos vies, il y a encore des choses qui doivent être changées. Pas par tes propres efforts, toujours. Ce que tu crois que tu dois faire changer. Oui, il y a des choses que nous devons faire. Comme dit l'apôtre Paul, que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Il le dit, il est clair. Ouais, il dit ça. Nous devons des efforts pour y entrer. Mais là, quand on est dans la présence de Dieu, notre vie change. Nous sommes transfigurés, changés. Nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Au moyen du sang de Jésus. Pas au moyen d'une religion. Pas au moyen d'un système, d'une pensée, d'une organisation. Au moyen de qui ? Du sang de Jésus, du Fils de Dieu qui est mort pour nos péchés. Vas-y, tu peux continuer, Nathan. L'autel des sacrifices. Donc on va voir le parvis un peu plus en détail. Vas-y, appuie encore. Voilà. Le parvis était un lieu donc de passage obligatoire pour entrer dans le lieu saint, plus après le lieu très saint. Il y avait deux choses. Je ne sais pas si vous avez vu sur le schéma qui précédait, mais d'abord le parvis prenait beaucoup de place. Et le parvis, moi je me mets à la place des gens qui sont dans le parvis à ce moment-là. Il y a des bêtes qui sont en train d'être sacrifiées. Il y a du sang qui coule partout. Enfin, c'est gore, comme on dit. Il y a l'odeur du sang dans le désert. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Une odeur de mort dans le parvis. Il y a quelque chose de grave. Quand on entre dans ce lieu-là, on n'y entre pas comme on rentre à l'église. Salut, comment ça va, hein? On y rentre vraiment avec quelque chose de fort qui est en train, au niveau de l'odeur, au niveau de la vue, de la vision, au niveau de ce que nous pouvons ressentir. Et vous savez, ces gens, c'est pas grave, ces gens, quand ils entraient, ils pouvaient se rendre compte de la valeur du sacrifice. Ils se rendaient compte de la gravité de l'instant. Ils se rendaient compte de la force de ce qui était en train de se passer. Et la question que je vous pose, moi, est-ce que vous rendez compte dans votre vie de tous les jours de la valeur de votre salut? Est-ce que vous rendez compte de la valeur du sang de Jésus qui vous lave et vous purifie? Est-ce que vous rendez compte de la grâce que vous avez, que vous n'êtes pas sur la table en train d'être sacrifié, mais que lui est allé sur l'autel du sacrifice, à savoir la croix? Réfléchissez à cela. Chaque jour, est-ce que vous rendez grâce à Dieu de ce que Jésus est mort sur la croix pour vos péchés? Quand on prend conscience de l'image de ce parvis dans l'ancien tabernacle, de l'ancienne alliance, on se rend compte de la valeur du sacrifice. Et Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang à ta place dans le parvis. Donc il avait l'autel des sacrifices. Et l'autel du sacrifice parle de ce que Jésus a fait sur la croix. Vas-y, Nathan. Là, c'était ça, et il y avait le feu dessus. Donc, on tuait les bêtes et on allait brûler les bêtes dessus. Vas-y, continue. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'est qu'il a effacé tes péchés. Il te lave, il te purifie. Tant que vos péchés ne sont pas pardonnés, vous ne pouvez aller plus loin. La question que je te pose, quand tu arrives le dimanche matin dans un temps d'adoration, est-ce que tu as fait ce pas-là de demander pardon à Dieu pour tes péchés? Parce que tu ne peux pas aller plus loin tant que le pardon des péchés n'est pas venu dans ta vie. Et tu ne peux pas connaître Dieu uniquement en voulant entrer directement, être parachuté dans le lieu très saint. Le parvis est le passage obligatoire. Tu ne peux pas avoir d'autre passage. Et l'autel des sacrifices parle de ce que Jésus a fait sur la croix. Il a effacé tes transgressions. Il a effacé tes fautes sur la croix. Il a enlevé tout le poids de ta vie. Tout le poids du péché sur ta vie a été enlevé. Et ça règle un bon nombre de problèmes dans notre vie quand on réalise cela. Combien d'entre nous rentrons ici le matin avec le poids de la culpabilité sur les épaules? Combien de personnes marchent tous les jours de leur vie avec le poids de la culpabilité sur leur vie? Saisissez que l'autel des sacrifices, que la croix efface tes péchés. Tu as le droit de dire, de proclamer, « Oui, Jésus, efface mes péchés !» Parce qu'il y a, n'oubliez pas que dans le parvis, il y avait des gens à l'extérieur. Et à l'extérieur de tes pensées, de tes oreilles, il y a quelqu'un qui te dit tout le temps, « Oh, t'es sûr que tu es pardonné? T'es sûr que t'es délivré? T'es sûr que ton péché n'existe plus? T'es sûr que tu peux continuer à avancer avec Dieu ?» Alors que Jésus a effacé. La croix est un bon remède à ta culpabilité. Vas-y, Nathan. Il a ôté notre péché. En tout cas, ce qui est la source. Si j'ai lu ça dans un livre dernièrement. J'ai trouvé ça l'image très extraordinaire. Enfin, je crois que C'était dans un livre, je ne sais plus. Enfin bref. Et la personne parlait du sacrifice de la croix. Il disait, quand Jésus enlève notre péché, c'est comme si vous aviez un arbre sur qui on a coupé les branches, à qui on a coupé les branches, et cet arbre ne peut plus porter de fruits. Mais moi, j'ai fait l'expérience, j'ai un abricotier au fond de mon jardin, vous savez. Il a donné peut-être un kilo de... au total, hein, sur toute la... sur... ça fait 11 ans que nous sommes à Neuville-en-Ferrin, il a peut-être donné un kilo d'abricots, qui était bon, certes, mais il ne fait que des fruits de qualité. Bon, bref. Et puis, l'année dernière, ou l'année d'avant, je me suis dit, je vais couper quand même des branches, parce qu'il commence à prendre de la hauteur, il est beaucoup trop important. Ah, je l'ai taillé, mais il fallait voir, mon épouse n'était pas très contente, parce qu'elle aime bien les trucs qui poussent, elle n'aime pas quand je coupe. Si vous voulez, si on avait eu un salon de coiffure, elle aurait fait les dames et moi j'aurais fait les hommes à la tondeuse. Voilà. En gros, c'était ça. Et j'ai coupé, coupé, coupé. Et que se passe-t-il au printemps de cette année? J'ai vu des pousses sortir du tronc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tant que l'arbre n'est pas déraciné, tant que l'arbre n'est pas coupé, tant que la racine n'est pas enlevée dans nos vies, il y aura toujours des rejetons. C'est-à-dire que quand Jésus, il est écrit que Jésus efface ton péché. Oui, il efface ton péché. Il coupe les branches. Mais derrière, il ôte le péché. Il enlève la puissance du péché. La puissance pour un arbre de faire sortir des rejetons est puissante. Il est beaucoup plus puissant que moi, que ma tronçonneuse ou que mon sécateur. Il est capable de reprendre vie. Et beaucoup de gens vivent cela. Il dit, je suis schizophrène, Jésus a effacé mes péchés, mais je continue à pécher. Et là, la Bible nous dit qu'il a amené à l'impuissance le péché. Regardez ce que nous allons lire ensuite. Je crois que c'est tout de suite après. Vas-y Nathan. Romains 6, 6. Notre vieil homme, le tronc, a été crucifié avec lui, afin que le péché fût détruit. Voilà ce que nous dit l'Épître aux Romains. Et détruit ici, ça veut dire rendu inopérant, qui n'est plus capable de s'imposer. C'est-à-dire que quand Jésus efface, il enlève les branches, mais en plus il enlève le tronc, il déracine le péché dans nos vies, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Beaucoup de chrétiens vivent la première partie. Oui, merci Seigneur, parce que tu effaces mon péché. Mais peu de chrétiens comprennent que la puissance du péché a été anéantie sur l'autel du sacrifice de la croix. Ça veut dire que si tu as encore un péché dans ta vie qui te tient d'une manière récurrente, la puissance du sang de Jésus peut l'enlever. Et normalement, vous devriez sauter de joie. Sauf si vous n'avez pas de péché dans votre vie. On continue. L'autel des sacrifices parle de ce que Jésus a fait sur la croix. Donc, il efface notre péché, il détruit la puissance du péché, mais il nous parle aussi de l'abandon. Parce que Jésus a tout abandonné, comme nous dit l'Épître aux Philippiens. Aux Philippiens, il a abandonné sa gloire céleste. Il s'est fait homme, il a amené jusqu'à l'humilité la plus profonde, la plus intense, il a donné sa vie sur la croix. Et Jésus, vous savez, sur l'autel, la viande est brûlée, elle était consumée par le feu. Ça sentait le barbecue. Ouais. Mais quand Jésus va sur la croix, il renonce à tout. Et même dans le jardin de Gethsémané, il a dit, « Seigneur, Père, si tu pouvais faire en sorte que cette coupe s'éloigne de moi, la croix. » En fait, au moment où Jésus est dans le jardin de Gethsémané, il est devant l'autel du sacrifice. Et il dit, « Je dois passer par la table, ça va être dur, mais en plus, tout ce que je suis va devenir cendre, rien. » Néant. Et vous savez, si tu veux te préparer dans le parvis, Tu dois comprendre que Dieu efface ton péché, tes péchés, que Dieu anéantit la puissance du péché dans ta vie. Et trois, l'autel du sacrifice parle du renoncement à soi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, je vis dans la foi, dans la puissance du Fils de Dieu. Je vis grâce à lui. Ma nourriture, Jésus a dit, c'était de faire la volonté de son Père. Si tu passes ta vie dans la semaine à faire ce que toi tu as envie et à te moquer de ce que Dieu veut, n'imagine pas pouvoir un jour avancer davantage dans l'adoration. Ensuite, tu peux mettre le reste, Nathan ? Ouais, ça j'ai dit, mon corps ne m'appartient plus. Continue. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Ouais ? Je suis pédagogique, les profs, là ? Bon. La cuve des reins. Ah, la cuve des reins, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. C'est intéressant de voir ça. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve des reins avec sa base des reins pour les ablutions. Donc, en gros, le sacrificateur, une fois qu'il avait tué les bêtes, ce qu'il devait faire, c'était se laver les mains et les pieds. Parce que vous imaginez, quand vous égorgez une bête ou quand vous tuez une bête, ça gicle de partout. Hein, c'est sale. Hein. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel. C'est-à-dire que l'autel est là, et derrière, il y a la tente de la rencontre, et entre deux, je ne peux pas rentrer sans me laver. Et regardez ce qu'il dit. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et deux fois, il le dit. Ils se laveront les mains, les pieds, afin qu'ils ne meurent point. Et ça m'a interpellé dans ce texte. Deux fois, le Seigneur et l'Éternel insistent. Il dit, tu ne peux pas entrer sans te laver. Et je me suis posé la question. Pourtant, le sacrifice est venu, mais maintenant, je dois me laver. On va essayer de comprendre ensemble. Et ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et leurs descendants. Vous savez qu'on est tous sacrificateurs. Cette loi, elle est valable pour moi et pas simplement pour moi. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Donc vous, cette loi, elle est perpétuelle pour vous. Vas-y, continue. La cuve des reins. Cette cuve a été fabriquée à partir des miroirs des femmes. Le Seigneur estimait peut-être qu'elles se regardaient trop devant la glace le matin, que ça gênait leur mari, que la salle de bain était prise tout le temps, je ne sais pas. Merci Seigneur, en tout cas. Hein, messieurs ? Merci Seigneur, on peut le remercier. C'est intéressant quand même. C'est-à-dire que ce qui m'aide à me regarder tous les jours devant dans la glace, pour me maquiller, pour me faire beau, enfin, etc. Ben, je ne me maquille pas, mais je parle des dames. Hein. Si tout ce qui sert a servi à la cuve des reins, au lavage. Intéressant, il faudrait peut-être approfondir. La mise du côté du moi doit être offerte pour avoir part à Dieu. Il faut être capable d'abandonner ce que tu es pour plaire à Dieu. C'est vraiment intéressant, ça. Je m'en rends compte dans ma vie tous les jours en tant que père. Des fois, je me dis... L'autre fois, on a une discussion avec Nathan sur le programme de l'Église. Tu te souviens, Nat ? Moi, je te vise en exemple parce que c'est un exemple sympa. Et Nathan avait décidé que ce serait comme ça. Je lui dis, non, c'est plus joli comme ça, Nathan. Mais Nathan, il veut faire les choses bien. Et je lui dis, écoute les conseils de tes parents, Nathan. Tu devrais faire comme ça. Ah, il y a une lutte dans la discussion, hein ? Waouh ! Pourquoi ? Parce que on veut... Nathan n'est pas pire que les autres et pas pire que nous. Nous sommes tous comme Nathan. Nous voudrions faire les choses pour Dieu en continuant de faire comme on veut. Et la cuve des reins et le fait que ces miroirs soient pris pour la fabriquer montre quelque chose d'important. C'est que tu ne peux pas avancer avec le Seigneur si tu continues à vouloir faire ce que tu veux et comme tu veux, avec tes propres moyens. Et chaque jour, nous devons nous laver. Pas uniquement une fois par semaine, le jour du culte. Comment tu te laves ? Tu fais bien ta toilette tous les jours, enfin j'espère. On passe notre vie à nous laver, à nous maquiller tous les jours. Enfin, les dames. Et nous, les messieurs, bien, maintenant, ils font des trucs sympas pour les hommes. Vous avez remarqué ? On fait de la crème pour nos rides et tout. Voilà. Bon, les jeunes n'y pensent pas, mais moi, je commence à y penser, vu mon âge. On passe beaucoup de temps à notre apparence. C'est pas vrai ? Et comment je vais m'habiller pour le réveillon ? C'est la grande question du moment. Et comment je vais pouvoir avoir les cheveux plus beaux ce matin ? Je me dis, mais il faut que je commence à penser à aller chez le coiffeur. Nous passons notre vie à regarder ce que nous sommes et comment nous allons devenir physiquement. Mais combien de temps nous prenons pour nous laver vraiment devant le Seigneur ? Je vous pose la question. Des fois, c'est vite fait. Oh Seigneur, avant d'aller au lit, vous connaissez ça. Je fais la même prière que vous. Oh Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés d'aujourd'hui, etc. Bonne nuit, Seigneur. Ouais. Ça, c'est une prière religieuse, non ? C'est de la religiosité. Combien de temps je prends à l'écoute ? Combien de temps je prends pour écouter le Seigneur ? Et souvent, le Seigneur me parle en pleine journée. Et puis je mets ça de côté et le soir avant de me coucher, c'est vrai Seigneur, je te demande pardon parce qu'aujourd'hui tu m'as parlé, j'ai eu une attitude qui n'était pas juste, où j'ai fait cela, tu ne voulais pas que je fasse comme ça. Et j'attends le soir avant de me coucher pour le faire, brièvement. Eh oui, on va continuer. Jacques indique que la parole de Dieu est comme un miroir sur lequel on peut se voir. La parole est un miroir dans lequel nous voyons qui nous sommes. Réellement, question que je te pose, combien de temps prends-tu dans la semaine pour regarder qui tu es dans la parole de Dieu ? Et ce chemin est un chemin obligatoire, indispensable, je vous l'ai écrit en titre, le parvis est un chemin obligatoire. Et la parole de Dieu juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Et tout croyant qui ne permet pas à la Bible de le laver et qui ne s'y soumet pas, ne peut pas être prêt à entrer dans le tabernacle. La cuve des reins nous parle de... Il est venu, comme je crois que c'est l'Épître aux Hébreux qui dit que Jésus est venu avec le sang et l'eau. Il est écrit cela, je crois que c'est dans l'Épître aux Hébreux. Il est venu avec le sang et l'eau. Il est venu avec l'autel et la cuve des reins. Il a traversé cela. Et nous ne sommes pas plus grands, meilleurs que lui. Nous devons passer par cela. Et nous devons permettre à l'eau de la parole de Dieu de nous purifier. Combien de temps tu mets pour lire ta Bible ? Combien de temps tu mets pour être enseigné de la parole de Dieu ? Et combien de temps tu mets pour te laver, te raser, te mettre du fond de teint, du rimmel, enfin, etc., etc. On continue. Deux fois... L'Éternel insiste sur le fait que de se laver avant de faire quoi que ce soit dans le tabernacle afin de ne pas mourir. Se laver donc n'est pas une action facultative. Si tu veux aller plus loin, tu peux te permettre de ne pas te laver. Dieu respecte ça. Tu peux rester devant l'autel. Tu peux même traverser l'autel du sacrifice et t'arrêter devant la cuve. Tu peux, tu as le choix. Tu as toujours le droit de le faire. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux rentrer dans le lieu saint puis atteindre le lieu très saint, tu ne pourras pas y aller tant que tu ne t'es pas lavé. Sinon, tu vas mourir. Alors, le mot mourir, à mon avis, c'est tu n'atteindras jamais ce que Dieu est réellement. Sa présence. On continue. Pour résumer, j'ai déjà fini. Pour résumer, le chemin vers la présence de Dieu en passant par le parvis est indispensable. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou est-ce que vous êtes convaincu ? C'était un de mes objectifs pédagogiques. Vous faire prendre conscience de ce parvis qui est important. J'ai beaucoup entendu parler d'enseignements sur le tabernacle, sur le lieu saint, le lieu très saint. Très peu sur le parvis. Peut-être vous aussi, mais moi très peu. Peut-être une fois, j'avais entendu un enseignement. C'est un chemin qui nous rappelle l'œuvre de Jésus-Christ. Le pardon de nos péchés, la victoire sur la puissance de péché et le fait que nous devons maintenant lui donner nos vies. Ensuite, l'entrée par le parvis représente non pas une action hebdomadaire, Sortez-vous à l'idée que vous allez devoir vivre ça ici, dans ce lieu. C'est votre vie tout le jour qui doit être le reflet du parvis. Je sais qu'il y aura des luttes. Qui ne vivent pas ces luttes? Je les vis tous les jours en me levant, tous les jours en me couchant. Je vis des luttes parce que j'entends des voix qui me disent « Bruno, tu n'es pas digne. Bruno, tu n'es pas celui qu'il faut que Dieu soit. Enfin, tu ne ressembles pas à ce que Dieu voudrait. » Et tous les jours de ma vie, j'entends ces voix extérieures. Pas vous. Tous les jours, j'entends l'accusation. Celui qui n'entend pas cela, venez me voir. C'est que vous êtes vraiment très bon. Donc, ce n'est pas une action hebdomadaire. Ce que nous faisons ici et ce que nous recherchons ici, ce n'est pas... Bien sûr, c'est d'amener des personnes. C'est pour ça qu'on fait des chants adaptés aux personnes qui ne connaissent pas les églises, pour qu'elles apprennent cela. Mais les croyants de longue date, il ne faut pas qu'elles restent dans ce schéma-là. C'est chez nous que nous devons vivre cela. N'oublions pas que ce chemin du parvis prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend vraiment, ça demande des ressources, je peux vous le dire. C'est une lutte constante dans la prière face à la parole de Dieu. Plus tu pries, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu la médites, plus tu seras armé pour faire repousser ces voix de l'extérieur. Oui, la pluie tombe en ce moment sur ta vie, c'est normal dans le parvis. Oui, le soleil cogne actuellement, c'est la sécheresse, c'est l'aridité, tu as soif, c'est normal, tu es dans le parvis. Mais il y a quelque chose que Dieu te demande de faire. Prends le temps de te purifier par le sang de l'agneau. Prends le temps de te laver par la parole de Dieu et entre maintenant dans sa présence. Parce que tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour que tu puisses atteindre le lieu très saint, la présence de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous donne. Et tout ce que je vous ai dit, c'est pas de l'accusation. C'est que tout a été prévu par l'Éternel pour que nous puissions atteindre le lieu de sa présence, le lieu de sa gloire, la Shekinah, comme le disent. Le lieu de sa gloire, le lieu de sa présence, où tu seras transformé, transfiguré de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Allez, on continue, Nat. Trop de personnes arrivent au moment de l'adoration sans avoir vécu cela en permanence toute la semaine et de ce fait prennent beaucoup de temps dans le parvis, n'ont plus le temps d'entrer dans le tabernacle. Je crois que c'est fini. Où est-ce que je me situe? Alors je ne jette pas d'accusation et je... C'est à chacun de savoir où il se retrouve aujourd'hui. Est-ce que tu es à l'extérieur du parvis? Bah déjà, commence à entrer par la porte. La porte, c'est Jésus. Je suis la porte, dit Jésus. Est-ce que tu es devant l'autel? Est-ce que tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés? Fais-le. Est-ce que tu dois ensuite permettre peut-être à la parole de Dieu de te laver davantage? Fais-le. Mais n'oubliez jamais ceci. Dieu ne vous attend pas uniquement dans le parvis. Dieu ne vous attend pas uniquement dans le lieu saint. Dieu vous attend dans le lieu très saint, dans sa présence. C'est le cœur d'un père. Parce que tu es son fils, sa fille. Moi, je n'ai jamais de plus grand bonheur lorsque ma famille est réunie à la maison autour d'un bon repas. Parce que c'est dans le cœur d'un père d'avoir ses enfants à côté de soi. Et Dieu te cherche. Et Dieu veut que tu vives cela avec lui. Je vous garantis et je m'y engage que si nous faisons cela, si chacun d'entre vous, vous commencez à avancer, vous serez transformé, transfiguré. Parce que le jour où tu atteindras ce moment d'extase, où la gloire descend, où il n'y a plus rien qui compte. Ça peut prendre des fois une heure sans que vous vous rendiez compte, deux heures, trois heures. Vous ne rendez même plus compte du temps. Je comprends que Moïse est monté là-haut une paire de jours. Je ne sais plus combien de temps, 40 jours, je crois. Je comprends. Deux fois 40 jours. Mais je comprends. Les gens qui vivent un état de mort imminente et qui vivent cette présence de Dieu. Ils se disent, mais je ne veux plus retourner, Seigneur. Regardez ça sur YouTube, il y a plein de petits témoignages de personnes qui ont vécu ça, cette lumière, puis ils ont vécu la présence. Ils se sont dit, mais je ne veux plus y retourner. Ils retournaient dans le monde voir les gens qu'ils aimaient, soi-disant, enfin ils aiment, mais ils étaient tristes de voir. Et il fallait que le Seigneur dise, non, non, tu retournes. Parce qu'eux, ils étaient bien là. Et Dieu vous cherche, vraiment. Prenez le temps de cette semaine. J'espère que, voilà, le passage indispensable du parvis.